Chantons le cantique 69.
Philippiens, chapitre 3, verset 17. Soyez tous ensemble mes imitateurs, frères, et portez vos regards sur ceux qui marchent ainsi suivant le modèle que vous avez en nous. Car plusieurs marchent dont je vous ai dit souvent, et dont maintenant je le dis même en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix de Christ, dont la fin est la perdition, dont le Dieu est le ventre, et dont la gloire est dans leur honte, qui ont leur pensée aux choses terrestres. Car notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire, selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir même toutes choses. Ainsi donc, mes frères bien-aimés et ardemment désirés, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, bien-aimé. Je supplie Évodie et je supplie Saint-Tiche d'avoir une même pensée dans le Seigneur. Oui, je te prie, toi aussi, vrai compagnon de travail, aide celles qui ont combattu avec moi dans l'Évangile, avec Clément aussi, et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que ces choses occupent vos pensées. Ce que vous avez et appris et reçu et entendu et vu en moi, faites ces choses et le Dieu de paix sera avec vous.
Bon, déjà, et nous avions déjà, lors de notre dernière réunion d'études à Pentecôte, abordé ce dernier paragraphe du chapitre 3. Mais nous n'avons fait que l'effleurer. Et il a paru nécessaire d'y revenir. L'apôtre exhortant ici les saints et fidèles de Philadelphie et les croyants de tous les temps à être ses imitateurs. Nous avons pu voir ou rappeler que dans cet épître aux Philippiens, nous avons, en partant des expériences propres de l'apôtre Paul et des circonstances dans lesquelles il se trouvait, et circonstances assurément propres à l'affligé, mais à travers laquelle et lesquelles il éprouvait non seulement les encouragements, les soulagements, mais des bénédictions divines toutes particulières, et éprouvait aussi ce que l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu opérait dans des saints pour son encouragement à lui, sa force à lui, afin que tous ensemble puissent jouir de cette grâce que nous avons chantée, dans laquelle nous avons à faire des progrès. Comme on le dit souvent, cet épître, c'est l'épître de l'expérience chrétienne, expérience vécue par l'apôtre, à laquelle il, et au bénéfice de laquelle, et il vient associer ceux qui étaient si chers à son cœur, ces chrétiens de Philippe, auxquels il était si étroitement lié et depuis longtemps. Expérience chrétienne, mais en réalité, comme on a pu l'appeler, la vie chrétienne dans son état normal. Dans son état normal. Et avec et sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Je ne fais que citer ici des paroles écrites il y a longtemps, mais toujours de la même valeur, de la même portée. On s'adresse, l'apôtre s'adresse ici à des chrétiens envisagés comme ayant réglé, on peut dire, les faits essentiels, primordiaux, initiaux de la vie chrétienne. La question de la justification, la question de la vie nouvelle, tout cela n'est pas abordé, de même d'ailleurs que les notions de l'assemblée et de tant de points doctrinaux de grande importance qui sont supposés connus, ou plus exactement, dont l'apôtre avait eu l'occasion de s'entretenir avec ses croyants lorsqu'il était libre, et à l'égard desquels il les avait enseignés. Donc peu de doctrine, mais la vie chrétienne en exercice. Et la vie chrétienne, c'est Christ. C'est ce qui domine toute cette épître. Christ, pour l'apôtre Paul, et son désir, son souhait, ses exhortations sont là pour que tous partagent le même état spirituel. Christ et sa vie, Christ est le modèle de sa marche ici-bas, Christ est le but et de cette marche et de la course qu'il poursuit vers ce but bientôt atteint, et il tend ainsi vers cette perfection qui sera acquise seulement dans la gloire, mais qui se résume toujours dans la personne d'un Christ, celui qui a été ici-bas, l'homme parfait, obéissant, dépendant, obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, et maintenant glorifié dans le ciel, puissance de ceux qui sont appelés à marcher dans le chemin qu'il a ouvert. Le modèle est dans le chapitre 2, nous l'avons vu, modèle de renoncement, modèle d'obéissance, un modèle de dépouillement de soi-même dans la fidélité à la volonté de Dieu, mais l'énergie, la force nécessaire pour suivre un tel modèle, qui reste le modèle inimitable, mais pour suivre un tel modèle, elle est en haut. Elle procède de celui qui est glorifié dans le ciel, de celui en qui le croyant peut se glorifier, mais cela suppose qu'il a mis de côté tout ce qui pourrait servir à sa gloire personnelle, à la satisfaction de lui-même. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait appris d'une manière toute particulière. Et le chapitre 4 que nous avons abordé nous montrera que cette même personne, c'est le tout de la vie pour l'apôtre Paul, et sa richesse, et sa bénédiction présente et éternelle. Et alors il peut se présenter avec des exhortations pleines non seulement de substance doctrinale, sous-entendue, supposée, connue, mais de toute, répétons-le, l'expérience de l'apôtre. C'est quelqu'un qui peut dire « Soyez mes imitateurs, soyez tous ensemble mes imitateurs » et se donne lui-même comme imitateur, comme un modèle. Dans l'Épître aux Corinthiens, il peut dire, chapitre 10, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Ici, « moi-même » en ce que, précisément, je n'ai devant les yeux que Christ. Imitez-moi en cela. C'est ce que, à la fin du chapitre précédent, finalement, nous avons trouvé, à savoir un sentier dans lequel, une fois que l'on a compris que nous ne pouvons rien par nous-mêmes, une fois que l'on a réalisé si peu que ce soit que notre part est d'être la vraie circoncision, rendre culte par l'Esprit de Dieu, se glorifier dans le Christ Jésus, ce sentier, c'est celui dans lequel ceux qui sont appelés les parfaits Elles sont appelées à marcher. Je ne reviens pas sur ce que nous avons pu voir à ce sujet. Et ils marchent. Le mot même que nous avons, avec 16 marchons dans le même sentier, dans son sens littéral, évoque une marche les uns à la suite des autres. La marche en file de soldats, et qui vont vers le même but, mais mettant les uns après les autres leurs pas dans les pas du chef, de celui qui conduit, de Christ lui-même. Alors soyez mes imitateurs et frères, et portez vos regards, non pas seulement sur moi, mais sur ceux qui marchent ainsi, suivant le modèle que vous avez en nous. Ceux qu'il appelle précisément les parfaits, nous qui sommes parfaits, ceux qui n'ont aucune confiance dans la chair, mais qui ont tout trouvé en Christ. Et alors l'apôtre est obligé d'ouvrir une parenthèse, car c'est une véritable parenthèse que les versets 18 et 19 pour évoquer ce qui m'a à côté de tant d'éléments réjouissants. L'épître est pleine de joie et d'exhortation à se réjouir, faisait pourtant pleurer l'apôtre, et nous avons le contraste entre ceux qui marchent, comme nous venons de rappeler, et ceux qui, non seulement à Philippe, mais d'une manière plus générale, je pense, ceux qui marchent comme étant ennemis de la croix du Christ, quoique se réclamant du nom de Christ, quoique se tenant et se faisant tenir pour chrétien. Et l'apôtre a hâte de revenir ensuite sur ce qui est la part bienheureuse et l'espérance, le terme, le but précisément du cheminement, de la marche dans le sentier après Christ. Et ce sont les merveilleux versets 20 et 21 que nous conduisons jusque dans la gloire et la puissance de celui en la conformité du corps duquel nous nous trouvons.
L'appel de la part de l'apôtre Paul à être ses imitateurs, cet appel se rencontre bien des fois dans ses épîtres. Rappelant quelques passages, nous citons celui de la première épître aux Corinthiens au chapitre 4e. Il est dit dans ce verset 15 et 16 du chapitre 4, de la première épître aux Corinthiens, « Quand vous auriez 10 000 maîtres dans le Christ, vous n'avez cependant pas beaucoup de pères, car moi je vous ai engendré dans le Christ Jésus par l'Évangile. Je vous supplie donc d'être mes imitateurs. » Dans les versets qui précèdent, l'apôtre avait montré combien il avait à souffrir en annonçant l'Évangile, tandis que les frères à Corinthe vivaient très à leur aise, vivaient même somptueusement, comme ce même chapitre nous le dit, l'apôtre qui les avait engendrés dans la foi, lui connaissait les épreuves les plus astreignantes qui soient. Et alors il leur dit, frères de Corinthe, soyez mes imitateurs, je vous supplie donc d'être mes imitateurs. Renoncez à cette vie facile, somptueuse que vous menez, et regardez comment nous avons, nous, les serviteurs du Seigneur, à annoncer l'Évangile. Dans la même épître, au chapitre 11e, nous avons également cet appel. Il nous est dit au verset 33 du chapitre 10e, comme moi aussi je complais à tous en toutes choses, ne cherchant pas mon avantage propre, mais celui du grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis de Christ. » L'apôtre montre combien il ne cherchait qu'une chose, à plaire au Seigneur, en souhaitant de tout son cœur le salut des âmes. C'était cela qu'il recherchait, ce n'était pas son propre plaisir. Il s'adresse à nouveau aux frères de Corinthe en leur disant, « Soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis de Christ. » Nous avons également notre passage dont on vient de parler dans l'Épître aux Philippiens et dans les Épîtres aux Thessaloniciens. Il y a encore quelque chose à cet égard qui mérite notre attention. Dans la première Épître, il y a un encouragement adressé aux jeunes frères à Thessalonique au verset 5e du premier chapitre de la première Épître aux Thessaloniciens. Notre évangile n'est pas venu à vous en parole seulement, mais aussi en puissance et dans l'Esprit Saint et dans une grande plénitude d'assurance, ainsi que vous savez quels nous avons été parmi vous pour l'amour de vous, et vous êtes devenus nos imitateurs. C'était une constatation, c'était plus une exhortation ou un appel dans le sens que nous avons vu dans la première épître aux Corinthiens. Mais c'est une constatation, vous êtes devenus cela, vous êtes devenus nos imitateurs et les imitateurs du Seigneur ayant reçu la parole. Dans la deuxième épître, alors l'apôtre doit faire appel quelque peu à leur conscience en disant au chapitre 3e, au verset 7e, de la deuxième épître, car vous savez vous-même comment il faut que vous nous imitiez. Il avait montré tout à l'heure qu'il fallait se retirer de tout frère qui marche dans le désordre. Alors l'apôtre de dire, nous n'avons pas marché dans le désordre au milieu de vous, ni n'avons mangé du pain chez personne gratuitement, mais dans la peine et le labeur, travaillant nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Et alors il exhorte les frères à Thessalonique dans cette seconde épître à veiller que eux-mêmes ne marchent pas dans le désordre, en ne travaillant pas, peut-être en pensant que le retour du Seigneur était un événement imminent, d'où l'exhortation de l'apôtre, vous savez comment vous devez nous imiter. Et enfin, dans l'Épître aux Hébreux, où il est parlé alors des conducteurs que le Seigneur a rappelés à lui, qu'est-ce qu'il est dit d'eux? Eh bien, qu'ils ont annoncé la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui les faisait agir? La foi. La foi en quoi? En la parole de Dieu. La foi en qui? En Jésus-Christ, qui est le même hier et aujourd'hui éternellement. Alors, l'auteur de cet Épître aux Hébreux nous invite à imiter une telle foi. Pas tant à dire exactement comme ils ont dit, peut-être imiter l'intonation de leur discours, non pas faire comme ils ont fait, dans le sens peut-être d'épouser leur attitude, leur geste, cela peut nous arriver. Non, ce que vous avez à faire, ce que nous avons à faire, c'est imiter la foi de tels conducteurs, cette foi qui les a fait agir jusqu'au jour où le Seigneur les a rappelés à lui.
On peut aussi ajouter dans Acte 20 le témoignage que Paul rend à sa propre marche, dans laquelle il n'y a pas eu de défaillance. Il pourra dire, et nous sommes environ 20 ans après sa conversion, pourra dire aux anciens d'Éphèse qu'il a fait venir à Milet, dans le verset 18 d'acte 20, « Vous savez de quelle manière je me suis conduite envers vous tout le temps, depuis le premier jour que je suis entré en Asie. » Il y avait donc là le témoignage de Paul, rendu à lui-même, mais il pouvait faire appel à l'appréciation de ceux au milieu desquels il avait travaillé. Et ils étaient ainsi amené à considérer, apprécier la marche fidèle de ce serviteur, ce qui donnait un poids considérable et tout particulier aux exhortations qu'il présentait aux saints. Avant de leur donner des leçons, il avait d'abord été lui-même un exemple, tout le temps, depuis le premier jour, imitant ainsi, évidemment, avec toute la distance qui sépare le parfait modèle de celui qui a été un imitateur fidèle, mais marchant sur les traces de celui qui peut dire à la fin de sa course, la montrant au Père, « Père, je t'ai glorifié sur la terre. » Offrande de gâteau dans laquelle il n'y avait rien qui altère une qualité par rapport à une autre, la fine fleur de farine, pétrie à l'huile, ointe d'huile, « Père, je t'ai glorifié sur la terre. » C'est sur ces traces que Paul a marché depuis le premier jour, tout le temps. Aussi, quel poids à son exhortation, « Soyez mes imitateurs, comme moi, je le suis, je l'ai été de Christ, depuis le commencement et tout le temps. »
Étant enfants de Dieu, nous sommes invités à être imitateurs de Dieu, comme des enfants ressemblent à leur père. Citons deux passages. Dans la première de Pierre, il nous est dit, au premier chapitre et au verset 15, « Comme celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, soyez saints car moi je suis saint. Et si vous invoquez comme père, celui qui sans exception de personne, etc. » Dieu est saint et nous devons porter ce caractère. Dieu est amour. Et dans Éphésiens chapitre 5, alors nous avons ce second caractère que nous avons apporté. Dieu est lumière, Dieu est amour. Dans Éphésiens 5, il nous est dit au début, « Soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants et marchez dans l'amour comme le Christ nous a aimés. » Nous sommes donc appelés dans ces deux passages à imiter notre Père, à imiter Dieu, à nous faire reconnaître comme enfants de Dieu par ces deux côtés, lumière, amour. Mais nous sommes des hommes. Et alors, nous avons un modèle qui est un homme et que nous avons trouvé dans le chapitre 2 des Philippiens. De notre épître, notre Seigneur Jésus-Christ, qui étant Dieu, est aussi homme. Et là, nous sommes appelés à l'imiter. Mais peut-être, ce modèle nous paraîtra trop élevé. Et à certains égards, nous nous sentirons incapables, dépassés, bien sûr, toujours. Mais alors, dans sa grâce, Dieu nous a donné un homme ayant les mêmes passions que nous, ayant appris lui-même, ayant fait des expériences, et qui nous invite à sa suite et par l'Esprit, sous la dictée de l'Esprit, il écrit cela, « Soyez mes imitateurs ». Nous avons ainsi ce qui est à notre portée, Paul qui, dans cette expérience chrétienne, dans cette course chrétienne, s'offre à nous servir d'entraîneur, de modèle, d'exemple, et nous le recevons ainsi, étant appelés à considérer ce serviteur exceptionnel, afin, non pas seulement de l'admirer, mais de suivre ses traces.
En passant, l'apôtre invite à regarder autour d'eux, non pas en eux, à trouver des imitateurs qui sont des imitateurs de Christ, et en trouver en eux des modèles. Nous sommes portés, et c'est ce dont l'apôtre avait été délivré si magnifiquement, à regarder à nous-mêmes, et à nous satisfaire de ce qui peut nous paraître bon dans notre marche, et à nous élever ainsi au-dessus des autres. L'apôtre Paul nous invite être ses imitateurs, dépouillés d'eux-mêmes, regardant comme des ordures ce qui avait fait son orgueil charnel d'homme religieux. Soyez mes imitateurs. Alors, il n'est pas sans intérêt d'indiquer en passant que nous avons le même mot qui est employé ici. Portez vos regards sur ceux qui marchent ainsi. Portez vos regards, c'est le même mot que nous avons au chapitre 2, quand il est dit au verset 4, chacun ne regardant pas, que l'on estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Découvrir dans les autres ce que la grâce de Dieu opère, au lieu de nous complaire en ce que nous pouvons avoir reçu, oubliant les choses qui sont derrière, tendant avec effort vers celles qui sont devant, et voyant déjà dans les autres, dans d'autres que nous sommes tenus d'estimer comme supérieurs à nous-mêmes, parce que nous pouvons seuls, dans le secret avec Dieu, avoir connu ce que nous valions, ce que nous sommes quant à nous-mêmes, ce dont il y a lieu de se détourner quant à nous-mêmes. Recevoir avec reconnaissance tous les bienfaits de la grâce de Dieu, mais chacun nous fait dire « Oh, mais je suis le premier des pécheurs. » Alors en contraste, nous avons donc ceux qui marchent, dont je vous ai dit souvent et dont maintenant je le dis même en pleurant. On voit l'apôtre Paul pleurant quelquefois, pleurant même souvent, sans doute, mais à travers les pleurs, connaissons la réalité de la joie qui demeure, de la joie profonde, de la communion avec Christ. On le voit qui rappelle ses larmes dans le chapitre 20 des Actes, les larmes qui, avec lesquelles il avait travaillé, supplié, prêché en public et dans les maisons. On le voit pleurer dans d'autres circonstances encore. Il a été en cela aussi imitateur du Seigneur. On le voit pleurant à propos des exercices des Corinthiens au chapitre 3 de la seconde épître. Nous serions souvent enclins à porter nos regards sur les autres, pour y découvrir le mal et non pas le bien. Et quelquefois, avec une secrète satisfaction, défions-nous nos propres cœurs toujours, avec une secrète satisfaction de nous marchons mieux que celui-là. Oh. L'apôtre Paul voyait le mal et tous les dangers de la propagation du mal. Et il regardait bien, effectivement, ceux qui ne marchaient pas suivant le modèle qu'ils avaient en lui, ceux dont la marche, au contraire, témoignait qu'ils recherchaient leur propre satisfaction, et depuis les plus grossières jusqu'à d'autres plus élevées, sans doute, mais cela le faisait pleurer. Cela le faisait pleurer. Nous n'avons pas à rechercher le mal. Nous n'avons pas à épier, comme nous le faisons souvent, le mal chez les autres. Nous avons à le constater lorsque le Seigneur permet qu'il soit placé devant nous. C'est tout autre chose que de le chercher. Ce que nous avons à rechercher, c'est le bien et non pas le mal. Et lorsque le mal est placé devant nous, Ce n'est pas pour nous répandre en indignation ou mépris ou besoin de colporter le mal que nous avons appris, mais besoin de nous en affliger, de pleurer et d'agir à l'égard de ceux dont il peut être dit ce qui est dit ici par l'apôtre Paul, ils sont ennemis de la croix de Christ. Non pas ennemis de Christ peut-être, mais ennemis de la croix de Christ. Cela doit nous faire pleurer. Agir avec compassion, miséricorde, vérité à l'égard de tel ou tel, mais avant tout, placer la chose devant le Seigneur en nous en humiliant nous-mêmes et en nous en affligeant.
Nous sommes ici nous rappeler que tous n'étaient pas du même avis. Les cœurs étaient partagés, de sorte que il dit « Soyez tous ». Et ce que nous voyons dans la suite nous le démontre. Les versets 18 et 19 nous ramènent à l'évidence des choses telles qu'elles peuvent se passer sur la terre, dans les assemblées, et c'est afin d'abaisser notre orgueil spirituel et de l'amener à suivre le véritable modèle que nous avons vu dans le chapitre 2, et c'est pourquoi il permet que des choses s'introduisent dans le témoignage, dans les assemblées. Dans l'épître de Jude, il est parlé de certaines personnes qui s'étaient glissées parmi les fidèles. Il y a eu de tout temps, dans le témoignage, des choses ainsi, parce que nous ne pouvons pas lire dans les cœurs, Dieu seul peut y lire, et par conséquent, l'ennemi nous trompe. Mais ici, si d'un côté il y avait de la joie en pensant à ces imitateurs que nous avons dans l'apôtre, et il n'était pas seul, d'un autre côté il y a l'humiliation que nous avons à porter parce que il y a au milieu de cette apparence religieuse des hommes qui ont leur pensée aux choses de la terre. Et puis, en fin de compte, dans ce paragraphe, nous avons le côté le plus glorieux, le plus élevé, c'est que le croyant n'est pas de la terre, il est un bourgeois, un habitant du ciel, déjà maintenant. Ainsi, cela nous place devant la responsabilité de la marche que nous avons à produire dans ce monde et que le monde voit, et les jeunes, surtout les anciens, doivent montrer qu'ils sont vraiment des imitateurs du Christ afin que les jeunes puissent s'engager ensuite dans la même voie. Que nous avons toujours besoin en tout temps d'une telle exhortation, soyez tous ensemble mes imitateurs, portez vos regards sur ceux qui marchent ainsi suivant le modèle que vous avez en nous. Il est bien connu que dans la seule histoire du témoignage du Seigneur actuel, il y a eu des conducteurs qui ont été suscités, vers lesquels nous avons regardé, desquels nous avons attendu l'enseignement qui nous était nécessaire, et ces frères, doués d'une exceptionnelle manière, et d'un autre côté, vivant profondément, intimement avec Dieu, étant parfaitement conséquents par rapport à ce que la grâce leur avait donné, ces frères, il leur a été donné par l'exercice de leur ministère de maintenir parmi leurs frères une unité de pensée et de sentiment. Cela est bien connu et le jour où le Seigneur a jugé bon de rappeler à lui de tels frères, nous avons bien réalisé combien nous nous sommes sentis un peu dépourvus, démunis. Nous avons tous besoin toujours de cette exhortation, soyez tous ensemble mes imitateurs, et nous avons besoin de regarder en effet vers de tels conducteurs dont la vie a été une vie modèle, absolument calquée sur celle alors absolument parfaite du Seigneur Jésus. En contraste, comme on vient de le dire, il y a donc ceux qui marchent, dont, dit l'apôtre, je vous ai dit souvent, et dont maintenant je le dis même en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix du Christ. Est-ce qu'aujourd'hui nous ne voyons pas d'une façon qui nous terrifie cette hostilité, peut-être pas directement à la personne de Christ, comme on vient de le dire, on parlera de Jésus-Christ, même avec facilité, on parlera de cet homme dont la vie a été une vie modèle au milieu des hommes, mais de la croix de Christ. Est-ce qu'on en parle volontiers? Il semble que on ne veut plus entendre parler du péché. De moins en moins, on parle du péché, alors que la parole de Dieu est si catégorique à cet égard. Et alors, par voie de conséquence, on parle de moins en moins de la croix de Christ. Non pas qu'on ne parle pas de Christ, mais de la croix de Christ. Et cela est extrêmement important, et combien il faut, il est nécessaire que nous continuions à présenter de tels enseignements de la parole de Dieu, l'Épître aux Romains, à l'égard de ce qu'est le péché, de ce qu'est l'homme pécheur, et d'un autre côté, à l'égard de la croix de Christ, de l'œuvre expiatoire de la croix.
Mon œuvre, mon pas. Le côté de la croix. Nous, chrétiens, nous croyons. Le premier côté, naturellement, dont on vient parler, par la croix, nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Par la croix, nous sommes délivrés non seulement de nos péchés, mais délivrés de nous-mêmes, étant morts avec Christ. C'est un des côtés ainsi remarquables de la croix. Mais l'autre côté qui est lié à la marche chrétienne dont il est parlé particulièrement dans cet épître, c'est que la croix de Christ entre le monde et nous, chrétiens, il y a la croix. C'est pourquoi nous avons besoin de réaliser ainsi dans notre marche ce côté, cette vérité de la croix du calvaire, afin que nous puissions réaliser ce que l'apôtre pouvait dire, je ne me glorifie pas en moi-même. Et je me glorifie dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle je suis crucifié au monde, et le monde m'est crucifié. Réalisons ces deux côtés de ces vérités présentées par la croix. Pour être l'imitateur de quelqu'un, il faut avoir constamment les yeux fixés sur cet objet. Et la seule manière d'être délivré de nos propres pensées, sitôt que nous quittons la présence de Dieu, nous sommes remplis de nos propres pensées. Et la seule manière d'être délivrés de nos propres pensées est d'avoir de saines pensées à l'égard de nos frères et sœurs, des pensées selon Dieu. Eh bien, c'est d'être occupé du Seigneur Jésus. C'est de l'avoir comme objet. C'est de nous nourrir de lui. Et en réalisant cela, nous pourrons réaliser dans notre mesure ces deux choses dont parle l'apôtre ici, nous réjouir. Nous réjouir dans le Seigneur. Dans le fond de nous-mêmes, au fond de notre cœur, cette joie que nous aurons parfaite là-haut, mais cette joie qui résulte d'une communion avec le Seigneur. Et l'autre côté, parce que ça va ensemble, nous ne pouvons ne pas pleurer quand les saints, des rachetés, des croyants, des enfants de Dieu, marchent mal, en déshonorant le Seigneur. Nous ne pouvons pas ne pas pleurer là-dessus. Parce que, avant tout, c'est le Seigneur qui est déshonoré. Et bien que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir suivre un tel chemin que l'apôtre nous présente et être dans une plus grande mesure ses imitateurs. Parce que lui vivait tout près de Christ. Tout près de Christ. Pourquoi l'apôtre Paul, dans le fond de sa prison, arrêté dans son service, dans lequel il s'était consacré toute sa vie, pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Encore une fois, je vous le dirai, « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Pourquoi? Parce que Christ était dans son cœur.
Les 18 et 19 n'ont pas la vie divine, malgré leur apparence religieuse, puisqu'il nous est dit que leur fin est la perdition. Mais sans doute avons-nous à retenir quelque chose comme exhortation de ces deux versets. Il nous est dit que ces gens dont le Dieu est le ventre, qui ont leur pensée aux choses terrestres, est-ce que dans nos pays où tout est si facile, où la bonne chair et d'autres choses ont vraiment risque de gagner nos esprits, de quoi nous occupons-nous? Est-ce que nos pensées ne sont pas souvent aux choses terrestres tout en étant des enfants de Dieu? Nous avons à retenir certainement une exhortation de ces passages.
Ainsi, dans un chemin comme celui qui nous est présenté dans ces versets, la parole ne peut pas ne pas montrer la fin d'un tel chemin, c'est la perdition. Si je suis un enfant de Dieu et que je m'engage dans ce chemin-là, la grâce, heureusement, interviendra en son temps, en sa manière, en sa puissance, pour m'arrêter. Mais la parole de Dieu ne peut pas ne pas présenter la fin d'un chemin de propre volonté tel qu'il nous est présenté ici et dans d'autres passages.
De sérieux et de solennité la parole montre aux chrétiens, aux véritables croyants, quelle est la fin, le terme normal, on peut dire, d'un chemin qui éloigne de Christ et de la croix de Christ, ici, la perdition. Si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Trouvons-nous au chapitre 8 des Romains. Si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Et tant d'autres passages, n'est-ce pas, des épîtres, qui parlent ainsi de manière à toucher la conscience et à toucher la conscience de véritables enfants de Dieu, mais qui se sont tellement éloignés, sont à ce point absorbé soit par la satisfaction des convoitises dont le Dieu est le ventre, soit d'une manière plus générale, par les occupations terrestres, par dont les pensées sont aux choses terrestres, nous ici, ce sont les pensées que on peut se demander si vraiment ils ont la vie. Et assurément, il y a un très grand nombre qui n'ont pas la vie, tout en ayant l'apparence. Ils sont croyants sans réalité. Mais gardons-nous de penser que ça ne nous concerne pas. Leur fin est la perdition, eh bien, ils vont à la perdition, ils n'ont pas la vie. Ceci est adressé à ceux qui ont la vie et que le Seigneur veut ramener au chemin dont ils sont écartés. résolvons à ne pas détourner le tranchant de l'épée de l'esprit, la parole de Dieu.
Pour nous souvenir, nous sommes dans un pays où l'évangile a été prêché, où les familles ont été élevées dans la crainte du Seigneur, mais il y a beaucoup d'apparences extérieures, et cela ne suffit pas devant Dieu. Les apparences extérieures n'ont aucun prix aux yeux de Dieu. Par conséquent, il peut y avoir ici des jeunes qui ont été à l'école du dimanche, qui ont suivi les réunions et qui les suivent, qui ont une apparence de piété, mais où est la réalité? Il faut qu'il y ait la démonstration des fruits de cet arbre. S'il n'y a pas de fruits, il n'y a rien, et par conséquent, la perdition. Qu'ainsi, tous ceux qui seraient dans un état semblable ici réfléchissent sérieusement et se demandent où sont leurs pensées, si elles sont en haut ou si elles sont sur la terre. C'est de là que sera décidé leur sort éternellement. Mais aujourd'hui, encore il y a la grâce, l'œuvre de la croix est là pour ceux qui se repentent et reconnaissent leurs péchés, la grâce est là.
Je peux citer deux versets, le premier dans l'Évangile selon Marc au chapitre 10, où le Seigneur s'adressant à ce jeune homme aux qualités si remarquables, puisqu'il est dit que Jésus l'aima, lui dit à la fin de cette déclaration, chapitre 10 de l'Évangile selon Marc, au verset 21 à la fin, « Et viens, suis-moi, ayant chargé la croix. » Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 14, le Seigneur parle autrement, dans le verset 27, en disant d'une manière générale, « Quiconque ne porte pas sa croix, ne porte pas sa croix. » et ne vient après moi, ne peut être mon disciple. Pour le jeune homme riche, il s'agissait de charger la croix, dès ce moment-là, renonçant à s'appuyer sur ses bonnes œuvres, et elles n'étaient pas peu considérables. Il avait accompli beaucoup de choses, à tel point qu'il attire l'admiration du Seigneur. Mais ce que le Seigneur lui demande, c'est de renoncer à tout cela, et de charger la croix, de commencer sa vie nouvelle au pied de la croix. Et l'ayant ainsi commencé, nous avons alors à la porter chaque jour. Dans l'Évangile selon Luc, verset que nous venons de citer, quiconque ne porte pas sa croix, après avoir été chargé, comme dans l'Évangile selon Marc, venu au Seigneur Jésus, ayant part à sa mort sanglante, qui nous délivre de nos péchés et de nous-mêmes, nous avons alors à porter la croix, c'est-à-dire à réaliser pratiquement la mort au péché, la mort au vieil homme. Vous êtes mort, tenez-vous vous-même pour mort au péché. Il est clair que porter la croix n'a rien de commun avec l'adoption du symbole de la religion chrétienne. On porte la croix, symbole adopté par le monde chrétien, mais ce symbole témoigne contre lui. Il affirme ainsi qu'il appartient à cette race meurtrière du Seigneur Jésus, sans s'en rendre compte. Ce n'est pas cela, porter la croix. Cela ressemble étrangement à ce que le Seigneur déclarera à l'égard des Juifs, les tombeaux des prophètes qui témoignaient contre eux. Se parer de la croix, adhérer à la religion chrétienne d'une manière extérieure, c'est apporter, c'est se placer en relation avec un symbole qui témoigne contre le monde, affirmant ainsi qu'il appartient à la race meurtrière qui, avec les Juifs, c'est écrié « Crucifie, crucifie-le ». La croix pour nous est bien tout autre chose. Charger la croix dans l'évangile selon Marc, porter la croix, c'est-à-dire vivre pratiquement la vie de Dieu, la vie de la chair étant tenue dans la mort. Ennemi de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, dont le Dieu est le ventre avec toutes les considérations qui ont été apportées, et donc d'un très grand sérieux, être ennemi de la croix de Christ, c'est-à-dire être ennemi de ce qui nous sépare du monde. Donc, en devenir un ennemi, pas un ennemi de Christ, on ne va pas jusque-là, mais on est ennemi de la croix de Christ, de ce qui sépare entièrement, de tout ce qui est incompatible avec Christ lui-même.
Que dans ces versets 18 et 19, nous voyons qu'il y a un très sérieux avertissement à l'endroit de tout croyant. Il ne faudrait pas simplement se contenter de dire « Oh, dans ces deux versets, il s'agit de la profession chrétienne, des gens qui n'ont jamais connu Dieu pour eux-mêmes, qui n'ont jamais connu Jésus pour leur sauveur personnel, et puis passer plus loin. » Dans ces versets 18 et 19, il y a un très sérieux avertissement pour nous tous, pour quelque croyant que ce soit. Et comme notre cher frère disait tout à l'heure, que le Seigneur nous garde de vouloir amoindrir le tranchant de l'épée.
N'est-ce pas? Dans ce même chapitre, nous trouvons deux choses opposées. Et pourrions dire de dangers qui menacent les siens, les chrétiens d'une manière générale. L'apôtre, au verset 2, a mis en garde les croyants de Philippe contre les mauvais ouvriers, les chiens. Prenez garde à la concision, dit-il, c'est-à-dire à la fausse circoncision, ce qui était la religion de la chair, en réalité, refusant la libération par l'Évangile, l'affranchissement en Christ, et qui voulait retenir ou ramener des croyants aux prescriptions d'une loi, aux prescriptions de la loi. Très grand danger du légalisme, et qui en réalité exalte la chair. Nous n'avons qu'à lire la fin du chapitre 2 des Colossiens. Et Paul a été converti, a été délivré de tout ça pour être attaché à Christ. L'autre danger, et qui n'est pas moindre, c'est de, ayant été justifié sur le principe de la foi, le proclamant, mais prenant le nom de chrétien, eh bien, nous permettre de vivre en ayant nos pensées aux choses terrestres. Et on a ce que l'on peut appeler, ce que l'on a appelé le chrétien mondain, le chrétien occupé de lui-même. La qualité de chrétien véritable, c'est-à-dire de celui qui porte la croix de Christ, est évidemment liée à la réalité de la chose. Et c'est ce qui se monte dans la pratique, dans la conduite, dans la marche telle que ceux du monde peuvent l'observer. Quant à démêler qui est croyant véritable, autrement dit, qui a la vie éternelle ou qui ne l'a pas, ah, nous pouvons dire que la chose appartient à Dieu et que il nous serait souvent difficile de dire celui-ci est véritablement né de nouveau, celui-ci ne l'est pas. Le concerné, l'individu, celui qui croit au Fils, a la vie éternelle et par l'Esprit de Dieu, il peut en jouir la certitude d'être sauvé.
nous disons là, n'affaiblit en rien la vérité essentielle, fondamentale, bienheureuse de l'évangile du salut. Quiconque croit est au Fils à la vie éternelle. Mais, sans qu'il y ait perte de cette vie, car elle ne peut pas être perdue, on est enfant de Dieu, on l'est pour toujours, on a la vie nouvelle, elle ne nous est pas retirée, le don de Dieu ne nous est pas retiré, mais on peut s'écarter à ce point de celui qui est l'origine, la source, la base de notre vie, et aller suivant une marche selon la chair et non pas selon l'esprit. Hélas, chacun de nous a à faire des expériences bien humiliantes à cet égard. La grâce de Dieu permet que nous soyons ramenés quand nous sommes égarés. Dieu peut permettre lorsque le cœur s'endurcit véritablement et ce peut être le cœur d'un croyant, n'oublions pas, d'un véritable croyant, jusqu'à ce que, eh bien, d'abord, il est tellement absorbé par les choses de ce monde, y compris les affaires, y compris les choses légitimes, y compris la profession aussi légitime qu'on le voudra, mais absorbant tellement nos cœurs et nos esprits qu'il n'y a plus de place pour la vie de Dieu. Et plus de place pour la prière, plus de place pour lire la parole, ou bien alors des formes, simplement des formes extérieures. Et d'autre part, il y a alors les convoitises, la satisfaction de nos appétits grossiers, n'est-ce pas, Dieu et le ventre, et sous cette figure, il faut voir aussi, je pense, tout ce qui concerne nos aises, ici-bas, hélas, combien, dans les temps favorables que Dieu a permis jusqu'ici pour nous, nous avons cherché. Et que chacun s'interroge quant à l'usage qu'il fait de ses loisirs, quant à aux facilités qui nous sont données pour beaucoup, hélas, on ferme les yeux sur les véritables misères. Mais quant aux facilités qui nous sont données, quant au logement, quant à au mobilier, quant à la nourriture, car c'est toujours le ventre qui est là, donné comme symbole. Il y a là tout un ensemble qui aboutit à ce que la vie de Dieu soit tellement obscurcie dans un croyant que ni son entourage, ni lui-même ne serait en état de dire et s'il est véritablement enfant de Dieu. Mais Dieu le sait. Et si c'est un enfant, il n'est pas perdu. Seulement, il peut avoir à traverser, et être pour être ramené par Dieu lui-même, et à traverser des circonstances, même dramatiques, tragiques, ou bien être abandonné jusqu'au bout et mourir comme cela. Voilà la fin, la perdition. Apparemment, en apparence, la même que pour un inconverti. Mais combien la chose est sérieuse. À la fois, on abuse de la grâce en faisant la licence d'agir parce que l'on est sauvé, mais on finira par oublier que l'on est sauvé. Ou bien, d'autre part, vouloir, par nos propres efforts, vouloir, en observant une loi rigoureuse, laisser de côté la grâce, c'était le cas des Galates, mépriser la grâce, être déchu de la grâce. Hein, le chemin est étroit. Ce qu'il est entre deux abîmes, c'est une crête à suivre. Mais c'est là le véritable chemin de la foi. Et pour reprendre une pensée qui a été exprimée tout à l'heure et que nous aurons à retrouver continuellement dans ce chapitre et dans le chapitre suivant tout particulièrement ce que on a appelé le thermomètre pour nous, expression familièrement employée dans ces régions, parce que on se rappelle quel est le
cher frère, qui est la mise en avant, à juste titre, le thermomètre de notre vie chrétienne. Et qu'est-ce que c'est? C'est en réalité la façon dont nos pensées sont occupées. Le thermomètre ne crée pas la chaleur. Il est une certaine mesure de la chaleur, une façon de mesurer la chaleur, hein, par ou le degré de température, plus exactement. Eh bien, de même, le moyen de savoir, de voir où en sont nos rapports avec Dieu et ce qu'est véritablement notre marche chrétienne, c'est de bien considérer ce qui occupe nos pensées. Nous trouvons l'expression plus loin dans le chapitre 4, n'est-ce pas, quand il est dit, que ces choses occupent vos pensées. N'est-ce pas? Que ces choses occupent vos pensées. Quelles sont les choses qui occupent nos pensées? Encore une fois, il y a bien des choses parfaitement légitimes qui tiennent à cette vie terrestre. Il ne s'agit pas ici de prétendre exempter de ce qui constitue des devoirs humains ici-bas. Qu'il s'agisse de profession, qu'il s'agisse de famille, mais tout cela sanctifié pour le chrétien par ses rapports avec Dieu et le fait qu'il possède le Saint-Esprit. Bien, mais nos cœurs et nos esprits ne peuvent pas rester vides. Avez-vous bien réfléchi à cela toujours? Ils ne peuvent pas rester vides. Essayez de vous représenter le vide total de votre esprit et de votre cœur. On ne pense à rien, on ne ressent rien. On est mort, bon, mais nous vivons. Alors, ou bien nos esprits et nos cœurs sont occupés de bonnes choses, où ils sont de mauvaises, où nos pensées sont aux choses terrestres, n'est-ce pas? Nos pensées, ils ont leurs pensées aux choses terrestres. Cela va très loin, cela. Où les pensées sont aux choses terrestres, où elles sont occupées des bonnes choses, comme nous le retrouverons au chapitre 4, mais avant tout occupées de Christ. S'il y a un mélange, hélas, c'est le trouble. C'est le trouble dans l'esprit, c'est le trouble dans le cœur. C'est pourquoi ce qu'il nous est dit, c'est de penser aux choses d'en haut, c'est d'être occupé des choses d'en haut, et tout de suite ici, en contraste avec ceux dont les pensées sont aux choses terrestres, l'apôtre dirige alors les regards des croyants vers les vrais biens, vers ce qui doit remplir le cœur, c'est-à-dire ce qui est appelé la bourgeoisie céleste. C'est-à-dire non seulement le fait d'avoir une place dans le ciel assurée par la rédemption de Christ, mais de participer déjà à ces bénédictions célestes et les vivre sur la terre, c'est tout. C'est toute une manière de vivre qui est envisagée là. Des citoyens du ciel qui sont comme en exil sur la terre, appelés à y glorifier Dieu et appelés à marcher soigneusement, mais qui ne se sentent pas de la terre. Puissent nos pensées être occupées du Christ Jésus continuellement. Continuellement, dit, c'est impossible. Et si, ça doit être possible. Puisque nous y sommes exhortés, que toute chose se fasse au nom du Seigneur, à la gloire de Dieu. Et c'est là ce qui est placé devant nous, et c'est là la vie véritable. Si nous avions toujours la conscience, même en faisant nos travaux, travail intellectuel aussi bien que travail manuel, et que nous sommes sous le regard de Dieu, sous le regard de Christ, de notre berger, de notre ami, de notre sauveur, sous son regard, et qu'il suit chacune de nos pensées. Nous pouvons l'oublier, mais lui ne perd aucune de nos pensées, aucune de nos impulsions, aucune de nos tentations. Et il est là pour nous aider. Il y a dans cette expression, n'est-ce pas, votre bourgeoisie, et dans les cieux, c'est pas seulement, vous aurez une place dans les cieux, et il va évoquer effectivement notre transformation glorieuse, l'espérance chrétienne, cela est merveilleux. Mais dès maintenant, vous êtes, vous avez cette qualité de bourgeois des cieux. La bourgeoisie, un terme qui, je dois le dire, doit être assez mal compris par la plupart, surtout des Français. Et en Suisse, le terme de bourgeoisie évoque quelque chose de précis. En France, la bourgeoisie, c'est pourquoi je crois qu'il vaudrait mieux abandonner ce terme-là et parler et avoir des termes approximatifs, malgré tout, droit de cité, citoyenneté, quelque chose comme cela. Mais enfin, c'est le fait d'appartenir au ciel et de porter, où que nous nous trouvions, cette qualité.
D'où l'exhortation que nous avons dans l'Épître aux Colossiens, à la page suivante, « Cherchez les choses qui sont en haut ». Il y a donc un effort à faire, il faut chercher les choses qui sont en haut. Et celui qui aime le Seigneur n'aura pas de difficulté à chercher les choses qui sont en haut. Parce quelles sont-elles les choses qui sont en haut? Quels sont ces célestes biens? Tout ce qui est concentré dans la personne de Christ, l'apôtre ajoutant les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Et quand on les a trouvés, il faut y penser, d'où l'importance de l'adverbe continuellement. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Au jour de la loi du Sinaï, il y avait une ordonnance digne d'intérêt à cet égard. On se souvient qu'au chapitre 15e du livre des Nombres, les fils d'Israël devaient se faire en leur génération une houppe au coin de leurs vêtements et qu'ils mettent à la houppe du coin un cordon de bleu. Cela, nous l'avons verset 38 de Nombres 15. Et alors, elle sera pour vous une houppe, vous la verrez, il vous souviendra de tous les commandements de l'Éternel afin que vous les fassiez. Et que vous ne recherchez pas les pensées de votre cœur, ni les désirs de vos yeux, après lesquels vous vous prostituez. Il y avait donc ce cordon de bleu que l'enfant d'Israël devait porter à la houppe de son vêtement, et ce cordon de bleu devait lui parler à lui-même. Quand il le voyait, il devait se dire ceci, « Je n'appartiens pas en fait à un peuple de la terre, j'appartiens au peuple de Jéhovah. » De Jéhovah qui habite les cieux. Eh bien, le chrétien, combien plus forte raison devrait-il penser à ce caractère céleste que Dieu, dans sa grâce, lui a accordé. Le chrétien est un être céleste. Combien il serait triste de voir des chrétiens occupés des choses de la terre. Nous ne parlons pas, comme il a été dit tout à l'heure, des choses légitimes, inhérentes à cette vie présente, mais être occupé de toutes sortes de choses qui appartiennent à la terre et ne pas être occupé des choses du ciel, cela serait profondément triste. Et voilà pourquoi l'apôtre, en effet, ici, dans notre épître aux Philippiens, après avoir parlé de ceux dont les pensées sont aux choses de la terre, il dirige alors nos cœurs vers en haut. Car en haut, dans le ciel, c'est là qu'est notre bourgeoisie, d'où aussi nous attendons notre Seigneur.
Nos cœurs doivent être déjà là-haut, nos cœurs de rachat. Car et pour nous, il y a un gain spirituel d'une grande valeur. Faire dans le chemin, dans la traversée du désert, la réaliser la dépendance du Seigneur, la réaliser sa présence, sa communion, croître dans la connaissance de sa personne, et par cela même, parce que ça se produit naturellement, être détaché des choses de la terre,
Comment voulez-vous si je jouis de Christ, si je contemple Christ dans la gloire, si je sais regarder Jésus marcher dans le chemin, comment voulez-vous que mon cœur soit arrêté aux choses de la terre? Je les ferai en passant, mais mon cœur n'y est pas. Et c'est en cela qu'il y a un progrès remarquable et quelque chose que nous gardons pour l'éternité. Nous ne nous contentons pas seulement d'avoir nos péchés pardonnés, c'est le départ, d'avoir l'assurance que notre place est prête là-haut, mais ayons conscience davantage que notre passage ici-bas dans le désert a des conséquences pour l'éternité, afin que nous soyons gardés dans le sérieux qui convient et pour que nous puissions saisir un peu ce que comporte pour un chrétien, pour un racheté, pour celui dont la bourgeoisie est dans les cieux, ce que comporte ainsi cette marche dans le désert. Tout ce qu'il y a dans le monde, tout est propre à nous détourner des choses célestes. C'est pourquoi nous avons besoin de veiller constamment. Et ces choses célestes et ce développement, cette croissance spirituelle ne se fait pas du jour au lendemain. C'est dans un contact constant, permanent, avec les choses saintes, les choses pures, les choses qui se rapportent au Seigneur, que nous croissons ainsi dans sa connaissance. Et plus on connaît le Seigneur, et plus on s'attache ainsi à lui. Et que ainsi nous puissions réaliser, pratiquement, dans les circonstances les plus ordinaires de la vie, réaliser que nous sommes du ciel. Nous sommes du ciel.
Jindé disait, un homme est ce qui gouverne son cœur. Selon l'objet qu'il poursuit dans son cœur, c'est celui-là qui forme son caractère. Deux exemples que l'on peut citer des avertissements, des enseignements qui ont été placés devant nous, c'est celui de Lot dans l'Ancien Testament, qui lève ses yeux vers tout ce qui est apparent dans ce monde. Et si ce ne fut la grâce de Dieu, sa fin était la perdition avec Sodome et Gomorre. Mais il avait établi ses tentes jusqu'à Sodome et il vivait avec les hommes de Sodome. Dans l'Ancien Testament, un homme que Paul a bien connu et qui porte un nom évocateur, significatif et plein d'avertissements, c'est Démas, qui a aimé le présent siècle mauvais, qui a quitté l'apôtre. Nous répétons, un homme est ce qui gouverne son cœur. Et notre cher frère disait tout à l'heure, que l'homme est incapable de vivre sans un objet qui forme son caractère. Une créature qui est un être moral ne saurait subsister sans objet. Se suffire à lui-même est le propre de Dieu. Se suffire à lui-même est le propre de Dieu. Sans objet qui forme ses pensées, mais c'est la prérogative de Dieu. Mais si l'objet que nous avons dans notre cœur est inférieur, nous voilà terrestre, nous voilà liés d'une manière ou d'une autre avec le monde. Si Christ est dans notre cœur, il est clair que notre marche aura un cachet céleste. Notre bourgeoisie est dans les cieux. Quelqu'un a donné comme équivalent notre manière d'être, notre politique, nos démarches sont dans les cieux. C'est là que nous avons notre trésor, c'est là que nous avons celui qui se présente pour être l'objet si précieux pour chacun de nos cœurs.
Notre bourgeoisie, ou plutôt notre citoyenneté, est dans les cieux. Nous avons à la réaliser déjà sur la terre. Nous devons le démontrer dans notre vie de tous les détails que nous n'avons rien à faire avec la terre, que nous sommes du ciel. Et c'est là un témoignage des plus beaux, démontrer qu'on appartient au ciel. On a connu des frères qui avaient vécu dans d'autres conditions qu'aujourd'hui, et d'une manière assez misérable,
mais qui ont démontré dans leur vie, dans leur marche, dans leurs occupations, qu'ils étaient des citoyens des cieux, et que par conséquent, les choses visibles étaient pour un temps, et qu'ils attendaient les choses éternelles qui nous sont destinées, qu'il nous soit donné de vivre ainsi.
Pour-nous dans les cieux.
C'est ce que disait Havas après ses expériences. Qui ai-je dans les cieux? Sous-entendu, sinon toi, l'Éternel, tel qu'il le connaissait. Il était entré dans les sanctuaires de Dieu. Il réalisait quelque chose de la présence divine dans laquelle il se trouvait placé. Et puis, et qui ai-je sur la terre sans toi? C'est la fin du psaume 73. Et qui ai-je dans les cieux? Je n'ai eu de plaisir sur la terre qu'en toi. Il y a un abîme entre ces choses terrestres et la gloire de Christ dans le ciel. Christ glorifié dans le ciel. Et nous préférons, nos pauvres cœurs préféreraient et les misérables choses de la terre qui non seulement sont appelées à passer, et de quelle manière, et qui sont fugitives, qui peuvent nous échapper, même les biens qui paraissent les plus solidement établis, et qui, d'autre part, comme nous le chantons quelquefois, ne laissent que dégoût. On s'en lasse. Quel abîme entre ce qui pourtant, je le répète, possède si facilement nos cœurs et l'excellence de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que Paul avait compris. Voilà ce qu'il voulait que ceux auxquels il écrivait comprennent. Et voilà vers quoi nos pensées et nos cœurs se trouvent attirés, invités par le Saint-Esprit lui-même. On a rapporté déjà cela, mais il est dit dans la parole que Philippe, la ville de Philippe, était une colonie. C'est-à-dire une colonie romaine, c'est-à-dire une ville qui a été fondée par d'anciens soldats libérés, et de toute façon des Romains, et qui étaient établis là. D'autres étaient venus, bien entendu, se joindre à eux, mais ceux-là et leurs descendants, et d'autres avec eux, qui acquérait cette qualité, possédait ce que dans les pays d'alentour, les provinces dans lesquelles se trouvaient de telles villes, ainsi fondées comme colonies, ils possédaient le droit de cité. Et ce droit de cité, c'est le droit de cité romain, latin, c'est-à-dire le droit d'un citoyen à Rome, de Rome. Et c'était une supériorité, évidemment, et quelque chose de très envié. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la ville était administrée autrement que les autres villes. Et Philippe était une de ces villes-là. C'est pourquoi on y trouve, ils sont nommés dans le chapitre 16 des Actes, des magistrats comme les prêteurs. Et il y a là quelque chose, les lecteurs, tout cela est proprement romain. Ils avaient aussi les habitudes, les usages de la ville-mère, de la ville impériale. De sorte que l'exhortation qui est adressée aux Philippiens devait avoir chez eux
un écho particulier. Eh bien, c'est ce que il vient d'être exprimé de différentes manières parmi nous aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est que nous sommes appelés sur la terre à vivre comme les gens du ciel, appartenant déjà au ciel. Et alors, ce que nous avons au ciel, c'est cette personne bénie. Quel doit être le désir de nos cœurs? Quel était celui de l'apôtre? C'est d'être avec lui. C'est de débarrasser de ce qui nous prive de sa communion. C'est de ne plus avoir à traîner ce corps d'infirmité, sans doute, mais qui est appelé ici le corps de notre abaissement. Pourtant, les stigmates, on peut dire, de ce qui est attaché à la chair, à la vieille nature, c'est-à-dire le péché. Et toute la faiblesse qui accompagne cela. Sont-ils destinés à rester toujours ainsi, ces corps? Nous, oui, mais la mort nous en délivre, sans doute. Mais ce n'est pas la mort que nous attendons. C'est la transformation de ces corps. Et la transformation pour les rendre conformes à celui qui est dans la gloire, à notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, que nous attendons comme Sauveur. Et voilà comment l'espérance chrétienne se lie à la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous de la vie terrestre? Hélas, nous ne pouvons rien attendre de bon. Mais, si nos pensées sont aux choses célestes, qui sont les richesses les plus merveilleuses que nous puissions concevoir, et bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir, alors, est-ce que tout ne change pas de couleur, de ton, d'atmosphère? Vivre dans le ciel tout en étant sur la terre, et être bientôt, alors, revêtu de corps transformés, fait à la ressemblance, à l'image de son Fils, mais avec des corps conformes au corps de sa gloire. Comme cela devrait nous transporter davantage.
C'était un contraste très cher au cœur de l'apôtre. On voit que l'apôtre, sans doute conduit par l'Esprit de Dieu, aimait et aime à parler de ce contraste entre, d'une part, le corps d'abaissement et l'apôtre. Savait ce que c'était que le corps d'abaissement. Son pauvre corps, malmené, maltraité, meurtri. Il a connu des humiliations cuisantes, l'apôtre. Lui peut parler. Il pouvait parler de ce corps d'abaissement. Alors le contraste avec le corps de la gloire de son Seigneur. Le chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens, qu'elle lut bien volontiers lors d'un service de la parole de Dieu, lors d'un ensevelissement.